6h30 à Paris, 4h30 à Dakar. L'heure des actualités africaines sur RFI. Bonjour Xavier Besson.
Bonjour Diane, bonjour à tous.
À la une ce matin, ces interrogations liées à des violences dans la province du Tanganyika.
En République démocratique du Congo, où le président de l'Assemblée nationale a évoqué en fin de semaine dernière la mort de plus de 300 personnes, un chiffre qui correspondrait plutôt à un bilan sur plusieurs années, répond ce matin le gouverneur de la province. Dans ce journal, également reportage au Sénégal à propos de l'incertitude créée par de possibles nouvelles restrictions de voyage aux États-Unis. Au total, 25 pays africains pourraient être concernés. Le numéro 2 de la police au Kenya qui se met en retrait de son poste le temps d'une enquête. Enquête sur la mort d'un homme en détention, un homme qu'il avait critiqué sur les réseaux sociaux. Et puis les sports, journal des sports dans une dizaine de minutes avec Saliou Diouf. On parlera football, défaite d'entrée tout à l'heure pour l'Espérance Tunis au Mondial des clubs. Et la nuit prochaine, ce sont les Sud-Africains des Mamelodi Sundowns qui feront leur entrée dans la compétition. Que s'est-il passé dans le territoire de Moba, province du Tanganyika, en RDC, dans la nuit de samedi à dimanche? Avant-hier, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a évoqué des violences et la mort de 318 personnes. Un chiffre que conteste le gouverneur de la province, Christian Kitungwa. Il reconnaît qu'un groupe armé est bien actif dans la zone, que des discussions d'ailleurs sont en cours avec lui. Mais pour le gouverneur, le nombre annoncé par le président de l'Assemblée correspondrait plutôt à un bilan sur plusieurs années.
Dire que dans le Tanganyika, dans le territoire de Moba ou dans le chefferi de Kansabala où évoluent ces milices et qu'il y a eu mort de plus de 300 personnes, que l'on dise sur la période 2020 à 2025, je pourrais encore comprendre et cela reste l'exercice qui porte à regarder dans nos rétroviseurs. Depuis mon arrivée, nous avons entamé le pourparler avec ce milice. J'ai eu à rencontrer la haute autorité pour avoir sa bénédiction. À ce stade, je vous dis, ce groupe armé n'attend que notre déplacement pour leur reddition. Ils sont prêts à déposer leurs armes. Le groupe qui se situe au niveau de Moba dans le chefferi Kansabala sont déjà pris en charge pour procéder à la reddition comme on l'a fait avec les autres milices.
Christian Kitungwa, le gouverneur de la province de Tanganyika en République démocratique du Congo. La RDC qui demande des clarifications aux États-Unis après la révélation ces derniers jours que Washington envisageait de nouvelles restrictions d'accès aux visas pour 25 pays africains. En plus de la dizaine déjà concernée par le travel ban et les restrictions annoncées précédemment par le président Donald Trump, parmi ces nouveaux pays visés, il y a aussi le Sénégal où cette annonce inquiète ceux qui ont l'habitude de voyager outre-Atlantique ou qui envisagent d'aller y étudier. Reportage de Juliette Dubois.
Beaucoup d'entrepreneurs comme Boubacar Djiba, qui travaille dans l'IA et les industries culturelles, ont tissé des liens durables avec les États-Unis.
Les États-Unis, ça fait partie des pays pour nous, en tant que start-up qu'on doit visiter. Ça nous permet aussi de tâter le terrain, de rencontrer des business angels ou bien des investisseurs. Ça va vraiment enfreindre un tout petit peu cet élan.
Moussa Thiam, lui, est doctorant en médecine à Dakar. Il revient tout juste de plusieurs mois passés à Chicago et prévoit d'y poursuivre des études en santé publique et épidémiologie. Pour lui, si le Sénégal venait à figurer sur une liste noire, ce serait l'anéantissement de plusieurs années d'efforts.
En fait, ce serait un frein et ce serait encore un problème, c'est de repartir à zéro. Parce qu'on a vraiment travaillé pour l'obtention du visa, on a essayé de trouver un partenariat avec l'université de Notre-Dame de Chicago.
Il a entendu parler de cette menace et ne comprend pas.
Nous, ça nous interpelle un peu, on se dit que quelle peut être la raison de cette restriction. Parce qu'au niveau du Sénégal, qui est réputé être un pays de paix, un pays de stabilité, on n'a jamais peut-être entendu un problème ou bien soit des assassinats ou des attentats qui sont entraînés par nos compatriotes sénégalais.
Selon les informations du Washington Post, l'administration américaine estime que les pays concernés souffrent de problèmes de documents d'identité fiables, fraude gouvernementale ou encore de dépassement de durée des visas de leurs citoyens. Les pays ont jusqu'à mercredi pour fournir un plan d'action initial. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
Les États-Unis qui ont cessé au début du mandat de Donald Trump de financer l'aide au développement, cela a rendu plus compliqué l'accord trouvé entre la Banque mondiale et l'Afrique du Sud, au total pour 2,5 milliards de dollars qui vont financer la transition énergétique sud-africaine. L'Afrique du Sud, un pays où l'arrêt progressif du charbon comme source d'énergie a pris du retard. Et cela commencera par le versement d'une première tranche de 500 millions de dollars. Précision, explication avec Alexis Bédu.
C'est un soutien financier de poids, mais qui était en péril depuis de nombreux mois. Déjà, ce plan de financement a été reporté en septembre dernier. L'Afrique du Sud, en pleine crise énergétique, annonce alors qu'elle décale la fermeture de 3 centrales à charbon. Entre-temps, Donald Trump est élu et les États-Unis retirent leur financement de ce fonds d'investissement climatique. Des 15 contributeurs de 12,5 milliards de dollars, les États-Unis étaient le plus important. D'autant que Washington s'est aussi retiré des plans soutenus par les pays riches pour aider l'Afrique du Sud à se décarboner, faisant perdre au pays 1 milliard de dollars en prêts. Donc la validation de ce fonds pouvant financer les projets de décarbonation jusqu'à 2,5 milliards de dollars est un soulagement pour Pretoria. Toutes les centrales à charbon doivent être mises hors service d'ici à 2042 et la compagnie publique Eskom explique être en retard sur son calendrier dans un pays qui dépend du charbon pour environ 80% de sa production d'électricité.
Alexis Bédu, l'Afrique du Sud où les services de secours continuent de chercher des victimes et moins probablement des survivants après des inondations dans la province du Cap-Oriental au début de la semaine dernière, conséquence de pluies diluviennes. Des inondations qui ont fait 90 morts au dernier bilan donné hier par les autorités. En Ouganda, les civils peuvent désormais, sous condition, être jugés par des tribunaux militaires. Le président ougandais, Yoweri Museveni, vient de promulguer une loi en ce sens. Loi adoptée malgré une décision contraire de la Cour suprême à Kampala au début de l'année. La société civile ougandaise craint que cette loi ne soit utilisée notamment contre les opposants. Tous les commissariats équipés de caméras de surveillance d'ici 2 ans, c'est la promesse des autorités. Au Kenya, où l'enquête se poursuit après la mort en détention au début du mois d'Albert Ojwang, un homme de 31 ans, critique sur Internet du chef adjoint de la police kenyane Eliud Lagat et dont le rapport d'autopsie pointe des blessures infligées par une force externe. Hier, ce numéro 2 de la police kenyane a annoncé qu'il se mettait en retrait de ses fonctions le temps de l'enquête. À Nairobi, la correspondance d'Alban Tiroir.
C'est dans un communiqué hier qu'Eliud Lagat a annoncé se mettre en retrait de ses fonctions de chef adjoint de la police en attendant la fin de l'enquête. Une décision prise selon lui en toute bonne conscience et au regard de l'enquête en cours concernant l'incident malheureux de la mort d'Albert Ojwang, peut-on lire dans le document. Il s'est ensuite engagé à coopérer avec les enquêteurs. Depuis la mort d'Albert Ojwang, dans des conditions suspectes, les appels se multipliaient pour demander la démission du chef adjoint de la police. Sa mise en retrait ne suffit pas pour la Commission kényane des droits humains. Selon elle, Eliud Lagat est, je cite, « un suspect principal dans le meurtre d'Albert Ojwang et devrait quitter définitivement son poste, être arrêté et poursuivi ». Albert Ojwang a été arrêté après avoir été relié à un compte sur X qui avait publié plusieurs tweets citant le chef adjoint de la police dans des affaires de corruption. Une publication accusait par exemple Eliud Lagat d'avoir placé des officiers qui lui étaient loyaux à des postes de contrôle de flux financiers. Une autre lui attribuait le titre de police mafieuse, dénonçant qu'il était dans le viseur de l'agence de lutte contre la corruption après avoir acheté une propriété à plus de 2 millions de dollars à Dubaï. Alban Tiroir, Nairobi, RFI.
RFI, 5h38 à N'Djamena au Tchad, où un collectif d'élus de la région du Wadaï, c'est dans l'est du pays, parle d'actes odieux et appelle les autorités à multiplier les efforts pour assurer la sécurité des citoyens. Ils évoquent 2 incidents intercommunautaires lors de la semaine qui s'est écoulée et qui ont fait, selon eux, 20 morts et 16 blessés. Un accord au Nigeria entre une douzaine de groupes armés et l'État de Katsina, une région du nord-ouest du Nigeria. Accord dont les autorités espèrent qu'il sera durable et qu'il permettra de mettre fin aux violences que connaît la région, touchée également par des violences, notamment les conflits entre éleveurs et agriculteurs. L'état de Benue, plus au sud, toujours au Nigeria. En fin de semaine dernière, un assaut mené par des hommes armés sur le village de Yelewata a coûté la vie à au moins plusieurs dizaines d'habitants. Depuis, un camp a été établi à Makourdi, la capitale régionale, pour accueillir les centaines, voire les milliers de personnes qui ont fui ces violences. Et pour le professeur Joseph Oshogwu, qui est le directeur général de l'Institut pour la paix et la résolution des conflits à Abuja, ce qui fait le lit de ces violences, c'est la combinaison de plusieurs facteurs, la désertification, la difficile répartition de la terre, la prolifération des armes et l'absence d'une administration solide au niveau local.
Les collectivités locales constituent le premier niveau de gouvernement pour gérer et résoudre les conflits, mais elles sont faibles à cause de la nature même du système où les États contrôlent les collectivités. Or, ces collectivités locales sont censées assurer, par exemple, l'éducation de base, les services de santé, routes et infrastructures de base pour garantir une présence de l'État dans ces communautés. Mais en leur absence, les populations sont comme livrées à elles-mêmes et des acteurs extérieurs en profitent pour tenter de prendre le contrôle. Avec une gouvernance locale efficace, la crise s'atténuera. Les populations verront qu'elles peuvent s'adresser à l'État pour obtenir réparation, notamment en zone rurale. L'armée ne peut pas se déployer simultanément sur tous les théâtres d'opération dans toutes les communautés. C'est quasiment impossible, vu l'étendue du territoire. Il est indispensable de mettre en place un système de gouvernance locale efficace pour remédier à ces situations. Il est important que les élites politiques nigérianes commencent à construire un consensus autour de la prévention de la violence.
Le chercheur nigérian Joseph Oshogwu, joint par Amélie Tulé. Dans l'actualité des pays africains ce matin également, le Togo qui décide de suspendre pour 3 mois RFI ainsi que la chaîne de télévision France 24. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication met en cause la couverture de manifestations contre le pouvoir au début du mois. Ce matin, les deux chaînes disent leur surprise, réaffirment leur attachement indéfectible aux principes déontologiques du journalisme et déclarent également se saisir de l'invitation de la haute autorité à une réflexion concertée afin, je cite, de lever tout malentendu et de pouvoir poursuivre leur mission d'information. Le Mali est la justice qui ordonne la mise sous administration provisoire de la mine de Loulo-Gounkoto, ce gisement qui fait l'objet d'un bras de fer entre le groupe minier Barrick Gold et les militaires au pouvoir à Bamako. Cette décision pourrait ouvrir la voie à une reprise de la production qui est à l'arrêt depuis le mois de janvier. Et puisqu'on parle d'or, en Côte d'Ivoire, le gouvernement et l'entreprise australienne Resolute disent avoir découvert une mine de classe mondiale dans le nord-est du pays. Cette découverte est l'une des plus importantes du pays, assure le communiqué du gouvernement. À Abidjan, où il est 4h41.
Afrique Matin sur RFI. Xavier Besson.
Afrique Matin à suivre, une double dose de Côte d'Ivoire à Abidjan d'abord, où nous nous sommes rendus sur le tournage d'une série télé consacrée aux 220 logements, quartier emblématique de la capitale économique ivoirienne. Et à Korogo, dans le nord du pays, région de coton, culture en crise, nous expliquera notre envoyé spécial. Notre invité Afrique ensuite, avec qui nous ferons le bilan des années Biya, même des décennies au pouvoir du président camerounais Paul Biya. Rendez-vous avec Christophe Boisbouvier et le journaliste camerounais Aman Mana pour un premier extrait de l'interview dans une dizaine de minutes. Mais tout de suite, ce sont les sports. Les sports ce matin avec Saliou Diouf. Bonjour Saliou.
Bonjour Xavier.
On débute avec du football et le mondial des clubs qui se joue en ce moment.
Et difficile entrée en matière pour l'Espérance de Tunis. Les Sang et Or se sont heurtés aux Brésiliens de Flamengo. Défaite 2-0 à Philadelphie. Malgré la ferveur de leurs supporters, les Tunisiens ont été dominés techniquement et tactiquement et n'ont pas su convertir les rares occasions que Youssef Belaïli s'est procuré en début de seconde période. Un apprentissage du très haut niveau international. C'est comme ça que Mohamed Ouel Derbali, milieu tunisien de l'Espérance, analyse cette défaite.
On a essayé de faire le maximum. En première mi-temps, ça a été un peu compliqué. Début de tournoi, comme pour chaque équipe, c'est toujours difficile. Après, on a vu que par rapport au championnat local et à la coupe, il y avait un niveau supérieur ici. On a essayé de rectifier en seconde mi-temps, de faire le maximum. On était proche de l'égalisation à certains moments. On a un petit peu de regret. Mais en face, il y avait une belle équipe et on va essayer de faire le maximum pour rectifier au prochain match. Ça nous montre le haut niveau. On voit qu'il y a une différence quand même avec le niveau local. Mais on a vu qu'en seconde mi-temps, on avait les moyens, on pouvait jouer contre ce genre d'équipe. Et on va essayer de travailler encore plus pour essayer d'augmenter le niveau et de faire le maximum.
Mohamed Ouel Derbali au micro de Baptiste Leduc. Prochain match pour Tunis, samedi à Nashville contre Los Angeles.
Et un autre club africain va lui entrer en lice ce soir dans cette compétition.
Et après Al Ahly du Caire, l'Espérance Tunis il y a quelques heures et avant le Wydad de Casablanca mercredi face à Manchester City, autour des Mamelodi Sundowns de débuter la compétition ce mardi. Le match se jouera à Orlando, les Sud-Africains affronteront les Sud-Coréens d'Ulsan, puis ce sera Dortmund samedi, puis puis les Brésiliens de Fluminense dans 8 jours. Pour l'attaquant namibien des Sundowns, Peter Chaloulil, c'est tout simplement une réelle chance d'affronter les meilleurs.
C'est une sensation formidable car nous allons voir certains des meilleurs joueurs du monde nous frotter aux meilleures équipes de la planète et ainsi pouvoir faire constater à tous notre talent aussi. Nous sommes impatients et surtout prêts pour cela. C'est une sensation immense, immense, car il ne faut pas décevoir à ce niveau. Les gens au pays croient en nous. Des milliers, des dizaines de milliers de personnes vont être là. Je sais que nous allons avoir des papillons dans le ventre, mais ils finiront par s'en aller et nous pourrons tout donner sur des terrains magnifiques, dans des stades pleins, du premier au dernier jour.
Et Peter Chaloulil, non Chaloulil, pour préciser, et coup d'envoi de la rencontre, 22h, temps universel.
Et un mot de basket, salut aux États-Unis, la NBA.
Et c'est une déception pour les Pacers du Camerounais Pascal Siakam qui se sont inclinés 120-109 face à Oklahoma City. C'est le match 5 de la finale qui s'est achevé il y a quelques minutes. Cela veut dire que si Oklahoma City remporte le prochain match qui se jouera vendredi, Oklahoma sera champion et donc pas de bague pour Pascal Siakam.
Merci. Salut Diouf, c'était le journal des sports. Reportage à Abidjan dans une minute. Avant cela, l'essentiel de l'actualité internationale de ce mardi 17 juin. Pas de signe d'apaisement dans le violent conflit qui oppose Israël et l'Iran depuis 5 jours. Conflit déclenché par Israël dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. Depuis, les frappes de missiles et de drones continuent des deux côtés. Cette nuit, les alertes ont résonné en Israël, notamment à Tel Aviv. Elles sont désormais levées. Et de son côté, l'armée israélienne a frappé hier, notamment la télévision nationale iranienne. Dans ce contexte, la Chine demande à ses ressortissants de quitter Israël. Les États-Unis conseillent de ne pas y voyager. Le président américain explique, je cite, que tout le monde devrait évacuer Téhéran immédiatement. Autant de signes qui montrent que le conflit se poursuit. Et Donald Trump quitte même plus tôt que prévu le sommet du G7 au Canada pour rentrer à Washington. Le sommet des pays occidentaux qui réaffirme ce matin le droit d'Israël à se défendre. Le communiqué commun appelle aussi à protéger les civils. Et puis à Gaza, la défense civile indique que 20 personnes ont été tuées hier par des tirs de l'armée israélienne en allant chercher de l'aide humanitaire. Cela s'est passé à Rafah, dans le sud de l'enclave, sous blocus israélien. Il y a également 200 blessés. C'est un quartier emblématique d'Abidjan, là où ont poussé les premiers grands ensembles d'habitation de la capitale économique ivoirienne. Depuis hier, la chaîne A+ diffuse une nouvelle série adaptée d'une pièce de théâtre sur les 220 logements. Et dans ces épisodes où se mélangent l'humour, l'amour, la vie quotidienne et les événements sociaux et politiques qui ont fait l'histoire de la Côte d'Ivoire depuis le début des années 90, on vit le quotidien de ce quartier. Pour RFI, Frédéric Gara s'est rendu dans les coulisses du tournage.
On te demande si on t'a bien raconté la vie que nous autres avons vécue aux 220 logements.
Est-ce qu'on t'a raconté le multipartisme?
C'est l'histoire d'une pièce de théâtre, les 220 logements, qui a eu son petit succès à Abidjan et devient donc une série télévisée. Les 220 logements, un quartier emblématique d'Abidjan où ont vu le jour les premiers grands ensembles d'habitations, des immeubles où se mélangeaient histoire politique, histoire d'amour et plaisanterie de maquis.
Mais vous avez vu, hein, c'est comme ça que ça se danse.
Voilà. Oh, quitte là. Dédé, même si vous faites venir votre Ouzouglou là,
on va montrer encore. Voilà. Voilà.
Voilà, c'est ce qu'on va voir.
C'est sur les lieux mêmes des 220 logements à Adjamé que la production de Plan A a posé ses caméras pour mieux s'imprégner de l'ambiance de l'époque et raconter une saga débutant en 1990. L'acteur Jean-Brice Traoré incarne Joli Garçon, un étudiant amoureux de la Jolie Léo et leader du syndicat Fessi sur le campus sous Fouette-Boigny.
J'ai 33 ans, je suis né en 1992. C'est vrai que j'étais petit quand tout ça s'est passé. Comme nous sommes venus tourner ici, nous avons découvert des gens accueillants. Il y a plein de personnes comme ça qui nous racontent un peu ce qu'ils ont vécu à cette période-là. Et franchement, c'est génial, quoi.
Gaston habite les 220 logements depuis 1968 et il observe les équipes de tournage filmer un bout d'une vie qu'il a bien connue.
C'est un honneur pour nous d'ailleurs que ça se passe dans notre quartier. En ce moment, tout ça c'était la brousse, ce que nous vivons aujourd'hui est la brousse.
Là où on est, c'était la brousse avant.
C'était la brousse. C'était la brousse. Et on a assisté petit à petit à l'évolution d'Abidjan.
Si tu partais sur le sport, là, c'était pas mal.
Le sport.
Sous la direction du metteur en scène Souleymane Sow, les comédiens répètent le texte adapté pour la chaîne A+, par son auteur, Chantal Djedjé.
Dans la série, on va retrouver des éléments qui ont composé la Côte d'Ivoire des années 90 à 95. Donc oui, des mouvements étudiantins qui réclament des changements politiques. Mais il y a toujours la vie du quartier et l'amour qui peut supporter la bonne humeur à l'ivoirienne.
La vie et les péripéties d'un pays à travers celle d'un quartier ancien mais toujours debout à Adjamé. Les 220 logements, ce sont 105 épisodes d'une histoire pas comme les autres, celle de la Côte d'Ivoire.
Reportage de Frédéric Gara à Abidjan. Et l'on reste en Côte d'Ivoire pour notre dossier Afrique Économie ce matin.
RFI à Korogo, 97.6 FM.
On traverse donc le pays direction le nord de la Côte d'Ivoire où nous donnons aujourd'hui et demain la parole aux cultivateurs de coton, des cotonculteurs en pleine crise puisque leur nombre est en chute libre. La production, elle aussi, moins 50% ces trois dernières années. En cause un ensemble d'éléments, le changement climatique, des pratiques à revoir ou encore les jacides, ces insectes qui s'attaquent aux cultures. Envoyé spécial à Korogo pour RFI, Binta Diagne.
Mamadou Siloué est producteur de coton. Son neveu l'aide à préparer les sols. À cette étape, il utilise la force d'une charrue tractée par deux bœufs. Depuis la crise des jacides, ce producteur a décidé de réduire les surfaces dédiées au coton.
Avant l'arrivée des jacides, je faisais 23 hectares de coton et 2 hectares de riz. Mais compte tenu de l'arrivée des jacides, donc j'essaie de diminuer les champs en faisant 15 hectares de coton. Et le reste est réparti, une partie pour le riz et une partie pour le maïs. On utilise une partie et le reste on vend.
Ces producteurs sont confrontés à un problème, la baisse des rendements, comme l'explique Salia Koulibaly, un autre cotonculteur.
Avant, si vous faisiez bien le travail, vous pouvez voir 2 tonnes à l'hectare. L'année passée, on n'a pas eu 1 tonne 200, hein. Ça a diminué à l'hectare.
Selon des scientifiques, cette baisse des rendements est en partie liée au changement climatique, mais aussi à la baisse de fertilité des sols, comme le constate Jérôme Kouassi, assistant chercheur au Centre international de recherche en agroforesterie.
À force d'utiliser les mêmes parcelles au fil des années, on a un épuisement des réserves, des éléments dont la plante a besoin pour pouvoir véritablement se développer. Et aussi le fait que les applications d'engrais ne sont pas faites sur la base de l'analyse des sols, on peut apporter des éléments en trop qui ne sont pas nécessaires, qui au fil du temps, au lieu que ces éléments-là puissent contribuer à la productivité, ces éléments-là vont contribuer plutôt à la baisse de cette productivité-là.
Les sociétés cotonnières qui encadrent les producteurs ressentent fortement cette baisse des rendements, à l'image de la compagnie ivoirienne de coton. Adama Tchelibé Siloué, son directeur général, s'interroge sur l'avenir de son activité.
Je travaille avec près de 30 000 producteurs. Et comme ça fait 2 ans que les rendements ne sont pas bons, ils sont beaucoup endettés. Ne pouvant pas rembourser sa dette, il est découragé pour les campagnes à venir. Et en temps normal, on égrenait de novembre jusqu'en avril. Mais aujourd'hui, quand vous démarrez en novembre, en février, le coton est fini. Nos usines, nos investissements, on commence à s'inquiéter. Qu'est-ce que va devenir nos investissements? Les bilans commencent à être négatifs pour les sociétés cotonnières.
Autre source d'inquiétude, d'après ce responsable, la présence d'une autre forme de jacide détectée dans plusieurs parcelles. Binta Diagne de retour de Korogo, RFI.
À Korogo, où il est 4h53. 5h53, à Yaoundé, les succès comme les échecs. Notre invité Afrique ce matin vient d'écrire un livre sur les années BIA. C'est même le titre de cette enquête de 700 pages, bâtie sur des confidences et des archives inédites, et dans laquelle donc l'essayiste camerounais Amane Mana raconte en détail les 42 années du président Paul Biya à la tête du Cameroun, à quelques mois de la prochaine élection présidentielle prévue en octobre. Amane Mana qui répond ce matin aux questions de Christophe Boisbouvier, qui lui a demandé notamment de revenir sur l'élection présidentielle d'octobre 1992, quand l'opposant John Frundi a fait jeu égal avec Paul Biya.
Le parti RDPC était moins sophistiqué dans sa capacité à manipuler les chiffres à l'époque. Je pense qu'il y a une grande mobilisation autour du SDF.
De John Frundi.
Et il y a ce raz-de-marée vers les urnes qui fait que tout le monde est d'accord là-dessus aujourd'hui. John Fundi a remporté ces élections, mais ce n'est qu'en dernière minute à la Commission nationale des recensements de votes, avec un afflux de votes venant tardivement de l'extrême nord, qu'on a dû corriger les résultats.
Vous rappelez aussi qu'en octobre 92, le nordiste Bello Bouba Maïgari arrive troisième avec 19% des voix. Est-ce que l'opposition aurait gagné si Fundi et Bello n'avaient pas été divisés?
Si l'opposition avait été unie, peut-être que John Fundi aurait gagné. Mais maintenant, c'est sans compter avec la volonté absolue, la volonté claire du RDPC et de Paul Biya de rester au pouvoir.
Alors John Fundi est décédé, mais Paul Biya et Bello Bouba Maïgari sont toujours là. Est-ce que vous pensez qu'on va les revoir tous les deux comme candidats en octobre prochain?
Écoutez, ça dépend de l'arithmétique. À l'heure actuelle, on sait que Bello Bouba, politiquement, peut-être n'est plus ce qu'il était à cette époque-là. Donc, cela fera partie des calculs. Maintenant, il y a l'inconnu Maurice Kamto. Est-ce qu'on acceptera sa candidature? À ce qui me semble, peut-être que Bello Bouba Maïgari ne soit pas un protagoniste décisif dans l'élection de 2025. Sauf s'il adoube Maurice Kamto.
L'essayiste camerounais Aman Mana avec Christophe Boisbouvier. Entretien complet dans trois quarts d'heure et sur RFI.fr. Dans un peu plus de 3 minutes sur RFI, un nouveau journal, toute l'actualité internationale et notamment un témoignage d'une habitante de Téhéran sous les bombardements israéliens. Mais tout de suite, c'est l'heure où nous prenons la direction du Gondwana. Maman, vous nous dites ce matin que la première qualité d'un militaire, c'est de faire la différence entre un combattant et un civil.
Oui, à l'école de guerre, dès la maternelle, un élève militaire a droit à sa première leçon qui est qu'on ne tire pas sur un civil, à plus forte raison un civil désarmé. La deuxième leçon consiste à apprendre à reconnaître un civil désarmé au premier coup d'œil. C'est les deux premières matières de la toute première journée d'école des soldats en herbe avant même que le maître se présente et fasse l'appel. C'est seulement après ces leçons que les enfants peuvent sortir en récréation, jouer au football ou à la guerre comme tous les enfants. Et ensuite, chaque matin, avant de débuter la journée, tous les élèves soldats assistent à la levée des couleurs et chacun récite ensuite par cœur ces deux leçons qu'on vient de voir, à savoir comment reconnaître un civil du premier coup d'œil et ne jamais tirer sur un civil, à plus forte raison un civil désarmé, avec un sous-chapitre « Ne jamais tirer sur quelqu'un de désarmé, civil ou militaire ». Et donc, pendant toute sa scolarité et sa formation, le futur militaire se voit rappeler ses leçons de base. Régulièrement, il a droit à des interrogations surprises et des travaux pratiques pour vérifier les acquis. Ainsi, on a vu des aspirants militaires renvoyés chez papa-maman parce qu'ils n'ont eu que des zéros dans ces matières-là. C'est facile de les reconnaître dans leur vie d'après. Ils sont toujours au bar en train de chercher des bagarres contre moins costauds qu'eux. Et quand ils n'en trouvent pas, ils rentrent à la maison frapper madame. Et donc, normalement, tout militaire qui a complété son cursus scolaire connaît par cœur ses piliers de sa formation. Un peu comme le footballeur qui, dès ses débuts, sait qu'il faut marquer dans les buts adverses. De l'autre côté du terrain, que ses adversaires sont ceux qui ont des maillots différents du sien et qu'il ne faut pas tacler l'arbitre, le juge de touche ou un membre du staff adverse, mais uniquement les joueurs adverses. Ce qui fait que sur le terrain, quand il est enfin lâché dans la nature, le militaire ne fait pas n'importe quoi. Il a été bien formé. Comme le conducteur qui a eu son permis de conduire parce qu'il a bien assimilé les leçons de code de la route avec les questions classiques. Quand vous voyez ce panneau de signalisation, que faites-vous? Ou bien, que faites-vous quand vous devez tourner à gauche? C'est la même chose pour un militaire. Quand tu vois un vieux monsieur rentrer chez lui, marchant difficilement grâce à une canne, un sac de course dans une main, ce n'est pas un combattant hostile, c'est un civil désarmé. Faut pas lui tirer dessus. Une femme et ses deux enfants, pareil. Des hommes en train de célébrer un mariage, un monsieur sur son vélo, des jeunes hommes dans la force de l'âge, en jean basket, tout ça c'est des civils, faut pas leur tirer dessus, même si certains portent la barbe. En résumé, c'est très facile de reconnaître un militaire qui a tiré sur des civils, il va toujours nier parce qu'il sait que ça ne se fait pas. À demain.
À demain. Merci Maman pour cette chronique du Gondwana. Merci aussi à Laurent Hérault qui était à la réalisation de cette édition d'Afrique Matin. Vincent Dublange à la rédaction en chef. Et vous le savez, c'est le moment où l'on passe la main à RFI matin. Andréane Mellard, bonjour Andréane.
Bonjour Xavier, bonjour à celles et ceux qui nous écoutent. Très heureuse de vous retrouver, comme chaque jour. On va rester ensemble sur RFI jusqu'à 10h. Et au programme ce matin, la guerre entre l'Iran et Israël qui se poursuit et qui est dénoncée par le G7 au Canada. Ce matin, on revient aussi sur cette possible extension du travel ban, l'interdiction de rentrer aux États-Unis qui concerne de nouveaux pays africains. Et puis, le salon du Bourget, c'est en ce moment le foot. On en parle. RFI, le journal, dans une minute.
8 milliards de voisins.
Laurence Garcia attend vos témoignages sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
face au cyberharcèlement en Afrique, quelle responsabilité des plateformes ?
Demain,
en quoi les amitiés entre poteaux sont une valeur refuge pour les adolescents ?
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 33 7 64 45 51 41. 8 milliards de voisins, du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.